Vous êtes auteur de livres de science-fiction ?
De science-fiction, non, d'heroic fantasy. Alors,
la nuance.
La nuance. Ouais. La science-fiction, comme le nom l'indique, c'est de la science en fiction, dans le futur. L'heroic fantasy, c'est un mélange à la fois de science, d'uchronie, de magie, de chevalerie.
Vous venez de quelle région ?
De Bretagne.
Donc ?
Dans du pays, ben, je suis juste à côté de la forêt de Brocéliande, la mythique forêt de Brocéliande, qui est la forêt du roi Arthur, de la fée Morgane, de la fée Viviane, et de Merlin l'Enchanteur. Excalibur, la fameuse épée. Oui.
C'est ça.
Parce que là, je voudrais faire une petite parenthèse. Je suis très très chauvin en tant que breton, hein. Mais les Anglois ont encore essayé de nous prendre une partie de notre culture en récupérant le mythe du roi Arthur. Mais le grand druide de la Gorset d'Igor de Bretagne, qui s'appelle Runlang de Squezec, a écrit un livre qui s'appelle Arthur, roi des Bretons d'Armorique, et il démontre, par tous les moyens possibles et imaginables, que le roi Arthur est bien un roi armoricain et non pas un roi des îles britanniques.
Saxon,
pas du tout. Donc le débat est clos.
Non, oui, exactement. Et les gens imaginent que le roi Arthur est anglais d'Angleterre, mais pas du tout. C'est un breton.
C'est un armoricain.
Bravo.
On n'y est pour rien, mais c'est comme ça.
Et donc, vous ne risquez pas d'avoir une barre radioactive sur votre fauteuil?
Ah, ça, je n'en suis pas si certain, mais...
Parce que vous touchez quand même pas des éléments qui peuvent déranger le gouvernement, le système en place.
Bien, plus maintenant, à une époque, si, parce que j'écrivais aussi sur ce genre de thème. Et puis...
Oui, vous avez mis la main sur un livre,
qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait « Site mystérieux extraterrestre », publié aux éditions Ramuel. Mais je ne travaille plus sur ce genre
que j'ai dans ma bibliothèque depuis des années.
C'est gentil.
Bravo.
Mais je vais quand même vous conter une anecdote. J'ai été journaliste pendant quelques années dans le sud de la France pour deux titres, Le Midi Libre et L'Indépendant, qui sont des grands quotidiens régionaux dans le sud de la France. Et j'avais cette chance de travailler dans la Haute-Vallée de l'Aude, qui est la région où se trouve Rennes-le-Château. On aura peut-être l'occasion de reparler un peu de ce qui se passe sur Rennes-le-Château. Mais, d'ailleurs, on a tourné aussi fréquemment avec Jimmy là-bas. Et puis, pour des raisons professionnelles et aussi familiales, j'ai abandonné avec ma famille la région de l'Aude et j'ai réintégré la Bretagne. Et ça ne faisait pas 24 heures que j'étais arrivé dans notre nouvelle demeure avec ma femme et ma fille et notre chien, un dogalement qui s'appelait Faust, comme le chien de Béranger Saunière. Et je venais juste d'être reconnecté sur le réseau de France Télécom, qui est le réseau téléphonique national en France. Et mon premier réflexe a été d'appeler Jimmy pour l'informer du numéro de ma nouvelle ligne. Un quart d'heure après, je vous garantis que c'était un quart d'heure après, alors que nous habitions en pleine Cambrousse, dans le triangle Rennes-Vannes-Nantes, une voiture noire est arrivée, une BMW, pour faire la publicité à la marque allemande, est arrivée, avec à son bord deux types habillés en noir, avec des lunettes noires, enfin les archétypes même des Men in Black. Et donc notre chien Faust a aboyé férocement à la barrière devant la voiture. On est allé, ma femme et moi, voir ce qui se passait. On a retenu le chien par le collier. Et là, un des deux types a baissé la vitre de la voiture et joué avec un automatique en nous regardant. Le message a été clair, quoi. Ça veut dire que nous étions non seulement surveillés, mais en plus sous écoute, et que ces fonctionnaires de l'État, puisque vraisemblablement c'était des fonctionnaires d'État, n'étaient pas très très loin de la maison, puisque un quart d'heure après, mon appel à Jimmy, ils étaient déjà à côté de nous, nous menaçant gentiment, mais d'un air de dire, bien, continuez à faire ce que vous faites, et puis vous aurez peut-être des ennuis un peu plus sérieux. Voilà, donc ça a été la première anecdote.
Est-ce une des raisons pour lesquelles vous avez quitté le milieu ufologique comme tel, et puis...
Non, je n'ai aucune crainte absolument. J'ai une carrière de hockeyeur sur glace professionnel. Ça peut paraître un paradoxe pour vous, Québécois et Canadiens, mais il y en a aussi en Europe et aussi en France.
À quelle position ?
J'étais arrière.
Oui.
Ouais.
Défense, on dirait.
Oui, c'est ça. Nous, on dit arrière.
Ouais.
Et donc, j'étais habitué aussi à prendre des coups et à encaisser des coups. Et puis, j'ai été conditionné depuis l'âge de 5 ans à ne pas avoir peur de grand-chose. Et c'est vrai que je n'ai aucune crainte à la matière. Mais par contre, j'ai abandonné le milieu ufologique et le milieu des recherches sur le paranormal parce que c'est un panier de crabes où on trouve de tout et de n'importe quoi en tant qu'individu. Il y a vraiment des illuminés, il y a des matérialistes qui ne courent qu'après le trésor en monnaie sonnante et trébuchante. Et puis il y a aussi des sous-marins d'État qui sont là pour semer de fausses informations. Et donc ça devient assez imbuvable. Rennes-le-Château en est un exemple flagrant, puisque la petite commune de Rennes-le-Château a été complètement bouleversée, complètement chamboulée, ce qui fait que les traces laissées par Béranger-Saunière et ses acolytes sont maintenant complètement inexistantes. Voilà où on en est. Vous savez, on a vu ça il y a quelques jours avec les élections, la réélection de George Bush aux États-Unis. Il faut bien prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se met en place. Et Jimmy a été le premier en Europe à en parler à travers les shortwaves, hein, l'arrivée des petits gris. Il y a quelque chose qui se met en place de façon implacable, c'est le nouvel ordre mondial. Nouvel ordre économique avant tout, mais aussi nouvel ordre culturel. On est en train de faire de la planète, non seulement une dynamite sur laquelle on est tous installés et qui va nous péter au derrière un jour ou l'autre, parce que j'étais encore il y a 3 semaines avec Nicolas Hulot, que vous ne connaissez peut-être pas au Québec, mais qui en France est un représentant d'une superbe émission qui s'appelle Ushuaïa Nature, et il travaille pour TF1 depuis une quinzaine d'années, peut-être même un peu plus maintenant, 25 ans. Et c'est vraiment un type qui est au contact de brillants scientifiques, mais aussi au contact de la nature. Et lui, il voit les désastres presque quotidiens et l'avancée dramatique de la destruction de la planète qui va vraiment à vitesse grand V, et au nom du profit. Et Nicolas me disait, et disait aux autres journalistes qui étaient présents, que si nous continuons tel que nous allons actuellement, nous allons droit au mur, et d'ici moins de 15 ans. Moins de 15 ans, c'est-à-dire qu'il ne reste vraiment plus longtemps. Oui.
Le fils de mes amis est étudiant à Toronto en écologie. Il a fait sa maîtrise. Il y a des choses qu'on n'entend jamais parler dans les médias, mais dans la région de Savannah, aux États-Unis, il y a une bombe atomique qui est tombée, qui était perdue. On n'a jamais retrouvé. Actuellement, ils sont pris avec. Ils ont eu un déversement d'un produit chimique il y a quelques années. Ils ne savent pas si c'est la combinaison des deux. Actuellement, les algues ont muté et les algues sont carnivores. Les algues sont en train de détruire complètement la faune aquatique dans cette région-là, dans la mer. Ils ne savent pas quoi faire. C'est dramatique, ils ne savent pas quoi faire.
Voilà. Alors,
ils appellent ça des algues red.
Algues
tueuses rouges. Et c'est une mutation, puis ils ne savent pas quoi faire.
Alors ça, c'est un exemple évidemment criant et dramatique, mais il y a des centaines et des milliers d'exemples comme ça d'un drame écologique qui est en train de se produire. On parle aussi de la fonte des glaciers. Il y avait encore un article ces jours-ci dans la presse, il me semble. Et bon, on voit bien vraiment qu'on est arrivé à une issue là qui est vraiment très proche, qui est imminente. Mais malgré tout, ce nouvel ordre mondial est en train de s'appliquer, et au nom de l'économie avant tout.
Bon, le dernier livre de Jimmy Gu qui n'a jamais été publié...
Terre de la civilisation Foucault, oui.
Voilà. Traite exactement de ce problème-là.
Traite de ce problème-là, et puis il avait aussi un credo...
Est-ce qu'il ne pourrait pas le publier indirectement par Internet?
Là maintenant, il y a beaucoup de choses qui entrent en paramètre. Jimmy étant décédé, il a quand même des ayants droit, son épouse, ses enfants, et puis ses éditeurs. Et il se trouve que tout ce petit monde...
Qu'il y avait déjà des droits chez les éditeurs,
Oui, Jimmy avait des droits quand même.
Des exclusivités.
Oui, des exclusivités en particulier. Ouais. Ouais. Et donc c'est très très difficile à négocier. Et puis maintenant, il faut dire aussi qu'il y a pas mal de choses de son manuscrit qui ne sont plus du tout d'actualité. En particulier, le credo de Jimmy dans ce livre documentaire, c'était la réunification des frères ennemis, hein, les Israélites et les Palestiniens. Et son grand souhait aurait été de rencontrer à l'époque Yasser Arafat et puis le premier ministre israélien qui a été assassiné. Et bon, évidemment, ça ne peut plus avoir lieu puisque les trois ne sont plus de ce monde. Peut-être vont-ils se rencontrer là-haut et espérons qu'ils auront la force d'intervenir et d'intercéder en la faveur de ces peuples qui se déchirent alors qu'ils sont frères. Frères ennemis, mais frères à l'origine, Inch'Allah. Oui.
C'est Caïn et Abel.
Pardon?
C'est Caïn et Abel.
Ben oui, c'est ça. Et donc je ne vois pas comment cet ouvrage pourrait être édité, y compris sur Internet. Par ailleurs, il y a vraiment eu de gros problèmes, des déchirures au sein des proches de Jimmy. Alors que ce soit de ses proches, de la famille humaine, mais aussi de la famille philosophique et spirituelle. La loge dans laquelle il était a été totalement dissoute après des drames, des combats hallucinants qui font d'ailleurs douter de la philosophie prônée au sein de ce genre d'obédience, puisque faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Et on parle d'une franc-maçonnerie.
D'une maçonnerie, ouais. Mafis Mizraïm. Et ça a été une lutte, une course au pouvoir, là aussi. Enfin bref, rien de nouveau dans les cieux, quoi. Et que ce soit au sein de la famille, de la famille philosophique, de la région, d'un pays, d'un continent, ou du monde, tout le monde se déchire.
Est-ce qu'on peut parler... John Mack vient de décéder il y a à peine quelques semaines. On n'a pas vraiment entendu beaucoup parler de la mort de John Mack, qui était psychiatre, mais il s'intéressait à l'ufologie. J. Allen Hynek est décédé. Seulement les milieux très spécialisés en ont entendu parler. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Jacques Vallée. Bud Hopkins est décrié parce que c'est un artiste, sculpteur, peintre. Bon, on dit pas que c'est un vrai.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qui va rester de l'ufologie? Très peu de choses.
Eh bien, je crois qu'en fait, les ennemis de l'ufologie sont arrivés à leur but. Et là, on est vraiment en train
les
de...
Les ennemis?
Oui. C'est-à-dire okay. ceux qui ont toujours lutté contre l'ufologie ou contre les sciences dites parallèles sont vraiment arrivés à leur fin. C'est-à-dire que et là on en constate les premières ruines. C'est-à-dire que l'ufologie est rendue à quelque chose de tout à fait c'est un gadget avec lequel on peut s'amuser encore quelques temps et puis qu'on va jeter un jour ou l'autre parce que eh bien la seule vérité qui va arriver à la face du monde c'est la pensée unique qu'on nous inflige et qu'on nous oblige à ingurgiter d'un bout à l'autre de la planète, et cette pensée unique est aussi appuyée sur une sorte de matérialisme, de cartésianisme, aménagé plus ou moins à la sauce mystique de la religion, mais en
restant... La religion, la science devient une religion.
Bien, ouais. C'est ça, oui. Ouais. Mais en restant quand même dans des carcans bien fondés, et d'auxquels, si quelqu'un essaye de s'en échapper, et bien là, tout de suite, la police temporelle a vu.